Bonjour à tous et à toutes, et merci de vous joindre à nous pour une courte émission bien spéciale. Je m'appelle Léa de Rome, je suis postdoctorante en philosophie à l'Université de Toronto, et je suis en compagnie de mon père, Jean de Rome. Vous le connaissez sans doute comme musicien, compositeur, improvisateur sur la scène jazz et de musique actuelle au Québec. Et on est ici pour parler d'un projet bien spécial, un projet musical intitulé « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard », inspiré du poème du même nom de Stéphane Mallarmé. Quand Jean m'a parlé de ce projet-là, j'avoue que moi, personnellement, je ne connaissais pas grand-chose à Mallarmé et je ne connaissais pas non plus grand-chose au poème. Quand je l'ai lu, j'avoue également que je n'ai pas tout compris à la première lecture. Et c'est seulement à travers une discussion avec Jean que le poème a commencé à se révéler un peu plus dans sa signification. C'est là que les contours se sont dessinés de manière un peu plus précise. Et c'est un peu à cette discussion-là qu'on vous invite aujourd'hui, une discussion entre une fille et son père sur le poème de Mallarmé et par le fait même sur l'œuvre musicale que Jean a décidé de lui consacrer. On ne peut pas vous promettre qu'on va percer tous les mystères du poème aujourd'hui. Ce serait de toute façon gâcher votre plaisir. Mais on espère vous offrir en tout cas quelques clés de compréhension, quelques repères pour que vous-même, vous puissiez aller à la rencontre de Mallarmé avec, sinon la certitude, du moins la confiance qu'un sens, une signification peut émerger, même d'un poème qui, en apparence, a l'air si obscur. Bienvenue, Jean.
Bonjour.
Je te propose, Jean, de nous présenter brièvement Mallarmé.
Mallarmé a vécu toute la deuxième moitié du 19e siècle. Il est mort en 1898. Il a connu un moment charnière de l'histoire de la poésie. Lui, c'était l'époque où les poètes, soudain, ne pouvaient plus vivre de leur poésie parce qu'ils n'étaient plus soutenus par les rois, etc. On rentrait dans le capitalisme en France, etc. Donc, Mallarmé lui-même a été professeur d'anglais pour survivre. Et puis, la poésie, il a commencé ça contre la vie de ses parents. Il écrivait une machine à poésie dans sa jeunesse et il avait une facilité pour l'alexandrin incroyable. Il remplissait des cahiers de poèmes très, très inspirés de Victor Hugo. Et puis, quand ses parents trouvaient les cahiers, ils les détruisaient pour empêcher ça le plus vite possible. Mais ça n'a pas réussi et il est devenu professeur d'anglais et le soir, il écrivait ses poèmes. Ce qui est frappant de lui, c'est qu'il y a une production vraiment très petite comparée à d'autres poètes et on se demande comment même, pour moi c'est surprenant, comment il a pu avoir tant d'influence en ayant si peu publié de son vivant. Alors graduellement, un poème sortait dans une revue ou un autre, et puis les gens se sont mis à collectionner ces poèmes puis à assembler des recueils avant même qu'ils soient publiés. Ils voulaient contrôler absolument la publication de ces poèmes. Et à chaque fois qu'il y a eu un poème publié, c'était une série de lettres pour changer une virgule, déplacer un mot, modifier, remplacer un mot par un autre, etc., au point de rendre certains éditeurs fous. Et puis, ça a toujours été comme ça. Ils prenaient attention à chaque mot. Donc, une œuvre assez pas tellement considérable en quantité, mais voilà qu'il y a eu un impact grandissant. Et puis, il était l'ami de beaucoup de poètes. Et vers la fin de sa vie, bon, il était professeur d'anglais chahuté là, par ses élèves. Là, il se faisait lancer des boulettes de papier, puis il n'était pas du tout
apprécié.
Il détestait, je pense, être professeur. Il le faisait simplement pour survivre. Et puis, sa vie, c'était la poésie. Il était complètement dans l'idée de sa création continuellement.
Donc, une machine à poésie dans sa jeunesse, mais finalement, une œuvre très limitée,
oui.
Publiée, parce qu'il travaille ses poèmes de manière obsessive. Chaque mot est réfléchi, chaque mot est bien pesé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont il écrit, son style littéraire, les courants poétiques auxquels il appartient?
Bon, il arrive à la fin du symbolisme. Il est considéré comme par les autres poètes comme le pape de leur mouvement. Et son style, mais comme les symbolistes, tout est métaphore, chaque mot est une concentration d'énergie. Et puis comme dit Normand Lalonde, l'écrivain, en parlant de ses propres aphorismes, on sait qu'un aphorisme est achevé et terminé quand tous les mots, chacun des mots clignote. Mmh. Et puis effectivement, c'est ça. Alors chaque mot est choisi. Donc, une espèce d'économie de mots. Et puis, il était à la recherche de trouver les sens les plus anciens, les plus profonds de chaque mot. Alors, il s'est mis à chercher. On sait qu'il cherchait dans le dictionnaire Littré, qui était à son époque, toujours les sens les plus vieillis de chaque mot pour quasiment dans un espoir de retrouver les sources du langage, de trouver des mots encore plus profonds, encore plus cachés dans, des fois, la racine d'un mot, etc. Comme il s'est intéressé à la philologie, puis etc. Un soin extrême mis au choix des mots, mais pas seulement ça. Il ne veut pas, pour lui, d'être compris immédiatement, c'est vraiment pas quelque chose qu'il recherche. Il dit, moi, je suis pas un journaliste. C'est ça, le niveau de langage qui est fait pour être compris instantanément. Si on comprend instantanément un poème, c'est que c'est raté.
C'est un échec.
Pour lui, comme symboliste, c'est un échec aussi si l'idée qu'il veut exprimer, elle est dite clairement dans le poème. Il faut que ça soit une émanation comme un parfum qui émerge du poème, qui te fait penser à quelque chose, mais que ce mot-là ne soit pas dit dans le poème. Alors, des fois, on raconte qu'il avait écrit une phrase, a remis à un journaliste qui lui demandait son avis sur quelque chose, et puis plus tard, il revient, il dit qu'il voulait changer un mot, puis ensuite un autre mot, puis là, finalement, le journaliste dit, mais on comprend moins bien qu'au début. Puis il dit, j'ai voulu rajouter un peu d'obscurité.
Parlant d'obscurité, le poème lui-même qui nous intéresse, Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, est spécialement obscur, j'ai envie de dire, parce que, bon, d'un côté, il y a des thèmes complexes, difficiles à cerner avec précision, mais on peut dire en somme que le poème paraît représenter une espèce de naufrage en mer. Il a l'air d'avoir une thématique là, marine, nautique, l'image de la vague, etc. Mais s'ajoute à ça une couche de ténèbres supplémentaires parce que la présentation typographique et des éléments graphiques du poème est très particulière.
Oui, Mallarmé écrit ce poème-là vers la fin de sa vie. D'ailleurs, il n'a pas réussi à obtenir une édition satisfaisante à son goût du poème. Ça a paru longtemps après sa mort, en 1914. Le poème lui-même il se situe à un point où tout le mouvement poétique français commence à vouloir abandonner l'alexandrin, abandonner les conventions normales qui étaient là depuis quand même, je sais pas moi, depuis Boileau, La Fontaine, etc. Donc, c'est vraiment un moment charnière où peut-être que le naufrage qu'on perçoit dans le poème est en même temps le naufrage du sens ou le naufrage de la poésie en tant qu'une forme achevée artistique, comme si on sent qu'on ne peut pas continuer à perpétuer ça, qu'il faut passer à autre chose, mais qu'est-ce que ça va être? Donc peut-être abandonner la rime, abandonner le compte du nombre de pieds, de césures, puis comment à ce moment-là arriver quand même à quelque chose qui se qualifie en tant que poésie si elle n'a plus rien des attributs traditionnels de la poésie. Alors, il fait son texte et dans son introduction, il nous dit que son poème est à la fois une partition comme si c'était une œuvre musicale et que l'apparence graphique du poème devient comme une partition. Alors ça, évidemment, c'est stimulant pour moi. Bon, ma larmée ne connaissait rien à la musique ou pratiquement au niveau technique de ce que c'est d'écrire une partition. Mais par contre, il propose des choses qui peuvent ressembler à ce qu'une partition musicale a l'air pour un néophyte. Donc, il y a des grandes pages ouvertes avec des choses, des éléments plus foncés, plus grands, plus petits, des choses qui semblent avoir plus d'importance que d'autres. Et comme son poème est fait comme un peu des poupées gigognes ou des poupées russes, il veut présenter des idées qui sont enchâssées une dans l'autre. Alors, il présente des formats de typos différents, des grosseurs de lettres différentes et des fois des lettres italiques, des lettres foncées. C'est la première fois dans l'histoire de la poésie qu'on retrouve une proposition comme ça. Et puis, il présente le poème qui doit être lu sur deux pages à la fois. Quand on tourne la page, on regarde les deux pages comme étant une seule unité. Et il joue sur le fait que des fois, les mots sont du côté gauche ou du côté droit de cette double page. Il utilise même le centre, le point de la reliure, comme si ça faisait partie du poème. Et les mots sont comme explosés sur la page. Certains sont tout petits, certains sont en italique, certains sont immenses. Alors, par exemple, le titre « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard » se retrouve présenté par bref moment à travers la page, mais en lettres très, très grosses. Et donc, on peut lire ça comme une phrase complète, mais à l'intérieur de ça, toute une série d'incises qui sont comme des parenthèses du texte. Des subdivisions prismatiques de l'idée, dit-il.
Oui, cet aspect-là est très frappant. Puis, pour te voler ta propre expression que tu m'as partagée une fois en conversation, le résultat paraît être une genre d'œuvre d'art totale où on a d'un côté un texte poétique à déchiffrer, à analyser, mais chaque page également, en raison des particularités typographiques et d'organisation du texte, se présente pratiquement comme une illustration, comme un espèce de morceau d'art visuel également. Donc, il y a beaucoup de particularités, il y a beaucoup de richesses en termes de propositions artistiques à chaque page qu'on tourne.
Oui, déjà, comme on a dit, les typos varient, mais aussi les mots sont placés sur la page de façon à ce qu'on voit, ou en tout cas, c'est pas explicite, mais on sent qu'on voit des images comme si les mots, par leur position, par exemple, le naufrage du bateau, tous les mots, quand on regarde la page, ça a l'air d'un bateau à voile couché qui est en train, la voile est en train de toucher l'eau, alors un bâtiment penché. Sinon, on imagine une sirène, on imagine une constellation, on imagine, etc. Alors, pour lui, il voulait revenir à l'estampe qui est l'origine de l'imprimerie. Maintenant, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Mais on peut imaginer qu'en 1890, c'était pas du tout, c'était absolument nouveau. Il n'y avait jamais personne. Tous les poèmes étaient présentés centrés, descendants, comme ça, justifiés des deux côtés. Et puis là, lui, il arrive avec quelque chose qui interpelle d'un point de vue graphique. En même temps, il dit que c'est une partition musicale. Puis quelque chose de contradictoire avec lui à ce niveau-là, de partition musicale, parce que pour lui, la lecture d'un poème, c'était suffisant de la lire en silence. Et pourtant, il porte une attention très, 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 très créative, très minutieuse, très riche au son des mots, à la sonorité, comme tous les poètes, évidemment. Quand on se met à lire ça, on se rend compte qu'il y a des sons qui reviennent constamment. Comme dans ce poème-là, il y a énormément de voyelles nasales, d'explosives, le son dur, du C dur, revient dans une concentration de fréquences anormal. Tout d'un coup, en lisant, on se met à chuchoter, à produire des explosives, etc. Il y a un aspect sonore vraiment intéressant dans ce poème-là. Et puis aussi, comme il n'est plus assujetti à la versification normale des poèmes, il se permet de faire rencontrer des voyelles ensemble. Il y a des E un après l'autre qu'on ne pourrait jamais faire. Là, un mot qui finit par un E, puis un autre qui commence par un E. Des choses qui étaient absolument tabous. Et puis là, il fait exprès. Il y a des pages où c'est comme juste des erreurs de versification, une après l'autre, qui devaient faire bondir les gens. Il a, d'ailleurs, une des premières fois qu'il a lu le poème, il a commencé par le lire à Paul Valéry, le poète, sans lui montrer les pages. Et puis, il lui a lu le poème. Et puis ensuite, il lui a montré les pages. Puis là, il lui a demandé, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis devenu fou?
Donc, le poème lui-même présentait beaucoup d'éléments, je crois, qui étaient susceptibles d'éveiller l'intérêt d'un musicien. Un travail sur les sonorités, tu l'as dit, une concentration de certaines sonorités, le C-dur, les nasales, la voyelle I qui revient à des endroits un peu étranges. Tout ça, j'imagine, le travail sur le son lui-même qui est mis à profit, ça l'a attiré ton intérêt, puis éventuellement, tu as eu le désir d'en faire un projet essentiellement musical.
Oui, pour moi, le fait que peut-être même Mallarmé ne tenait pas à ce que le poème soit lu à haute voix, je crains pas de faire un sacrilège en le faisant. Je pense que, comme n'importe quelle œuvre sonore, ce poème-là recèle un potentiel sonore vraiment, vraiment intéressant. Et puis moi, comme musicien, je suis pas inquiet de l'obscurité d'un texte. Déjà, la musique en elle-même, on la comprend pas, on la ressent. On la ressent comme le thé infuse dans l'eau chaude. C'est vraiment pas un souci pour un musicien, l'intelligibilité. Je cherche plutôt une espèce de communication par osmose avec le public et j'ai confiance que même si ce n'était qu'une simple lecture du texte, il y aurait quelque chose qui passait. Quand on termine la lecture de ce poème-là, on ressent une émotion qui est très difficile à décrire. C'est comme, justement, comme on termine le poème avec une image d'une constellation dans le ciel, on ressent un peu la même impression qu'on ressent quand on est le soir dans la nuit et qu'on regarde les étoiles, cette espèce d'interrogation sur notre place dans l'univers, etc. Mm-hmm. Je trouve que ça se passe, ça passe tout à fait dans le poème. Notre vie qui est un peu entre la constellation et l'abysse, entre le néant et on ne sait pas. Là,
et l'immensité.
L'immensité, voilà. Il y a beaucoup de questions qui émergent du poème pour moi qui veux le faire lire. Premièrement, le poème n'a aucune ponctuation. Chaque phrase pourrait être interprétée de différentes manières simplement en variant les points, en imaginant qu'il pourrait avoir une virgule là ou pas. Les mots se regrouperaient autrement. Puis là, l'idée prend un autre sens. Puis c'est vraiment voulu par Mallarmé, clairement, que l'idée puisse demeurer toujours ouverte, toujours une question, toujours une énigme. Alors on se dit, oh, si tel mot communique avec cette phrase-là, ça veut dire si, mais sinon, ça veut dire autre chose. Puis on est pris dans ça. Alors, ma première action pour essayer de rendre ça digestible à première écoute, ça a été de ponctuer le texte. Alors, j'ai fait une ponctuation moi-même en virgule, point-virgule, parenthèse, en utilisant aussi du surlignage pour essayer de faire émerger le corps principal du texte, puis ensuite pour qu'on comprenne qu'il y a des incises dans le texte, des espèces de parenthèses. Après ça aussi, j'imagine que certains bouts vont être chantés d'une manière chorale pour marquer les différentes grosseurs de typo. Et puis aussi, je prends les deux feuilles, les deux pages qui se présentent à l'œil à chaque fois qu'on tourne, comme si c'était mon plan de scène. C'est-à-dire que l'image qu'on voit, qu'on perçoit sur, en regardant la page du livre, va être reproduite par la position des 13 interprètes sur la scène. Alors, quand un mot est très bas sur la page, la personne qui va dire ce mot-là va être très en avant. C'est comme si je prenais le livre puis je le mettais sur le plateau de scène puis ça devenait notre plan de scène. Ça pose des tas de problèmes, mais ça, ça va être mon domaine en commençant les répétitions.
En un sens, donc, l'image graphique du texte va être incarnée par les participants eux-mêmes sur scène qui vont être associés à différentes lignes de texte. Les nombreuses incises dont on a parlé plus tôt, qui sont comme accrochées à la ligne thématique en grand caractère. Donc, il va y avoir comme différents chemins de pensée, différents fils d'Ariane qui nous sont proposés. Et je crois que tu m'avais même confié que tu avais l'espoir, peut-être un peu optimiste, de faciliter la compréhension du poème en nous présentant une version concert du poème de Mallarmé.
Oui, j'ai besoin d'une grande dose d'optimisme ou bien d'un don quichotisme profond pour m'attaquer à quelque chose comme ça, mais je m'y attaque pas. J'essaie humblement de rechercher le sens puis de rechercher une certaine, ben, je dirais, audibilité, pour pas dire lisibilité, de ce texte-là. Je crois que, parce que quand on lit ce poème-là, tu sais, des fois, on lit un texte et puis on imagine un lecteur, qui est peut-être l'écrivain, en tout cas, on a un personnage en tête qui nous dit ce poème-là. Ou c'est nous, ou c'est quelqu'un d'autre, ou ça dépend des textes. Mais dans ce cas-là, on dirait que, pour moi, à cause des idées qui arrêtent, qui reprennent, qui rentrent en elles-mêmes, comme il dit, lui, dans sa préface, on pourrait imaginer, c'est pour ça que je propose une lecture à plusieurs, que le texte soit partagé et continué un par l'autre, et puis quand un certain lecteur reprend, donc peut-être que ça va faciliter le fait qu'on comprend que c'est cette idée-là qui continue à travers la voix de ce narrateur-là. Donc lui, quand il reprend la parole, ça veut dire qu'il reprend le fragment qui avait été abandonné plus tôt. Parce que c'est ça, c'est comme un grand nombre de phrases qui sont toutes interrompues une par l'autre. Alors, en lisant, c'est pas si évident, mais à force de lire, on comprend que ce bout-là se rattache à cette idée-là, ce bout-là. Donc, les gens, par leur voix, ils continuent le fil d'une pensée qui est interrompue, qui est reprise, etc. Puis en plus, parce que je suis la position des mots sur la page devient mon plan de scène. Quand une idée continue, mais ce personnage-là se trouve à avancer sur la scène à mesure que le texte descend vers le bas. Lui, il se trouve à s'avancer vers l'avant. Donc, peut-être que simplement par son déplacement, même s'il parle pas, il s'en vient, il y a d'autres choses qui est dit, puis hop, lui, il reprend la parole. Ça va être comme un genre de ballet. Alors, est-ce que c'est une pièce de musique que je suis en train de faire, ou une pièce de théâtre, ou une lecture de poésie, ou bien une représentation graphique, visuelle, en utilisant des figurants placés dans l'espace et éclairés? C'est un peu tout ça. Moi, j'essaie de ne pas me demander. De toute façon, dans beaucoup, beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie, j'ai essayé d'échapper à qu'est-ce qu'on s'attend qu'un musicien peut faire dans son métier. Pas d'y échapper, mais de montrer que beaucoup d'autres choses sont envisageables. Et ça en va être une proposition comme ça où, dans le fond, je touche beaucoup au domaine de la littérature. Ça, c'est un projet qu'on fait soutenu par Production Supermusique en tant qu'un concert, mais moi, je le vois autant comme quelque chose qui pourrait être dans un festival de poésie ou dans une salle de théâtre, etc. Je veux même pas le savoir. Je veux juste humblement rendre cette fameuse partition, comme dit Mallarmé, la jouer, la présenter, la partager avec un public.
Merci, Jean, de m'avoir guidé une autre fois dans le monde mystérieux de Mallarmé. Comme tu m'as déjà dit, Mallarmé, c'est comme le bronzage, il faut s'exposer aux rayons pour que ça marche. Ben justement, on vous invite à vous exposer à une bonne dose de rayons et à vous présenter au salon pour assister au spectacle musical Le Hasard, une création de Jean de Rome qui aura lieu le 23 avril prochain à l'espace Orange de l'édifice Le Wilder dans le quartier des spectacles à Montréal. Il s'agit d'une présentation de Super Musique en collaboration avec Le Vivier.